Bonsoir et bienvenue sur Late Night Stories. Je suis Chap, auteure et lectrice des récits que vous découvrirez au fil des semaines. Ce soir, nous allons entamer ensemble le troisième épisode d'Entre Feu et Glace. On retrouve Dena en plein dans la tourmente. Peut-elle vraiment lutter contre son destin ? Installez-vous confortablement et laissez-vous embarquer dans mon histoire. Les jours qui suivirent étaient mornes. Dès que je mettais un pied hors de la tente, je sentais une ombre qui me suivait. Un garde, un membre du conseil, mes parents. Ils s'étaient tous passé le mot et je n'avais plus une minute de solitude. Je croisais parfois le regard inquiet de ma mère. Un regard qui me laissait présager que quelque chose me concernant la préoccupait. Peut-être était-ce les cauchemars qui ponctuaient mes nuits depuis la visite de la grotte, ou bien craignait-elle une nouvelle escapade loin du village ? Toujours était-il que la laisse qui pendait à mon cou depuis mes tout premiers pas s'était resserrée de façon bien trop inconfortable. J'avais beau guetter la moindre faille, dès que je pensais pouvoir filer, une silhouette bien trop familière apparaissait au détour d'une tente ou d'un étal. Mes amis étaient hélas soumis à une surveillance tout aussi étroite, et j'en étais en partie responsable. Je n'avais pas eu l'occasion de passer du temps seul avec eux depuis bien trop longtemps. S'ils n'avaient pas été amis avec la fille de la grande prêtresse, jamais il n'aurait été soumis à de telles contraintes. À cette pensée, mon estomac se tordit. Ce n'était pas juste. Il n'avait rien fait de si grave, moi non plus d'ailleurs. Allongé sur les peaux étalés sur le sol, je ruminais ma frustration. La journée était déjà bien avancée et je n'avais pas mis le nez dehors, refusant même d'avaler le repas que l'on m'avait préparé. C'est alors qu'un des pans de la tenture menant à mon espace personnel s'écarta et ma mère apparut. Bornée, je roulais sur le côté afin de lui tourner le dos. Puisque les cris et les plaintes n'avaient pas fonctionné, il était temps de changer de stratégie. Un silence tendu s'étira, si longuement que je crus que ma mère était repartie. Mais le froissement du tissu de sa robe trahit sa présence. Je la sentis s'approcher et s'installer sur l'un des coussins posés au sol. Face à mon mutisme, elle finit par pousser un soupir là. « Tu sais, ça ne me fait pas plus plaisir qu'à toi cette situation, Dena. » Seul mon silence lui répondit. L'agacement dans sa voix était perceptible quand elle reprit la parole. Combien de temps comptes-tu m'ignorer au juste ? Penses-tu que cela soit digne de toi ? Si tu ne cherchais pas à te mettre en danger à la moindre occasion et que tu restais sagement au village, nous n'en serions pas là. Ces mots me firent bouillir, à tel point que ma décision de ne pas prononcer la moindre parole fut bien vite oubliée et j'explosai. Ne pas quitter le village, faire honneur à ton rang, rester sage. Si tu savais à quel point j'en ai marre de ces règles stupides. À t'entendre, je ne suis ni ta fille, ni un membre de ce village. Je suis purement et simplement une prisonnière. Et pourquoi, hein ? Si seulement tu me disais la vérité. Peut-être que je pourrais l'accepter. Mais non, tu ne me dis rien, ou tu détournes la vérité. J'en ai tellement marre. Brusquement, je sentis une poussée de chaleur monter en moi, comme une tempête de flammes destructrices. La virulence de cette émotion me prit de court, mais j'étais bien trop en colère pour essayer de la tempérer. « Et mes amis, hein ? Que je sois ton gentil toutou passe encore. Mais Octas et les autres, leur seul tort c'est d'être amis avec moi. Ils ne méritent pas d'être traités comme ça. » « Dena !» Je ne voulais plus l'entendre. Si seulement elle pouvait se taire. La colère faisait battre mes tempes comme un tambour. « Non, j'en ai marre de tes excuses. Si c'est pour encore me parler de ma sécurité ou me mentir, je préfère que tu ne me dises rien de plus. » J'observais la femme qui se trouvait en face de moi. Cette femme que j'appelais mère, cette femme qui me faisait tant souffrir alors qu'elle m'avait donné la vie. Et soudain, j'eus envie de déchirer de mes ongles son visage impassible et ferme, d'arracher sa chair de mes dents et de répandre ses entrailles fumantes sur le sol gelé. La violence qui m'envahissait devint hors de contrôle, et je poussai un hurlement de bête enragée. Ma vue se troubla un instant, et les flashs de la grotte me revinrent à l'esprit. Je perdis alors complètement pied avec la réalité. Puis ma vue revint, et sous mes mains se trouvait la gorge de ma mère qui me lançait un regard horrifié. Je sentais les battements désordonnés de son sang qui essayait de circuler. Je voyais les jointures blanchies de ses doigts qui tentaient en vain de desserrer mon emprise. D'horribles gargouillis s'échappaient de sa bouche. Elle, qui était si forte, était désormais incapable de se libérer. J'étais en train de la tuer. J'en étais consciente. Je voulais que ça s'arrête et pourtant mon corps refusait de m'obéir. L'horrible voix que j'avais entendue à deux reprises m'encourageait à aller au bout de mon geste. Faisant appel jusqu'à la moindre petite parcelle de volonté qu'il me restait, je parvins à occulter ces mots. Ce venin qu'elle tentait d'instiller dans mon âme et dans mon esprit, me poussant à commettre l'irréparable, reflua. Un mur mental s'érigea entre moi et la bête, et je pus enfin relâcher ma prise, juste avant que ma mère ne perde connaissance. Elle roula sur le côté et se mit à tousser violemment. J'avais l'impression de tomber dans un gouffre sans fond. Perdue, terrorisée à l'idée de recommencer, je m'éloignais le plus possible et me recroquevillais dans un coin. Le souffle court, des larmes incontrôlables coulant sur mes joues. J'avais failli tuer ma mère. Il n'aurait fallu que quelques instants de plus pour la faire disparaître à jamais. Que m'arrivait-il? Avais-je définitivement perdu l'esprit? Et si je m'en prenais à mon père? Ou bien à Octas? Les pensées se bousculaient dans ma tête, à tel point que je ne prêtais plus attention à ce qui m'entourait. Une main se posa alors sur mon épaule et me fit sursauter. L'expression inquiète de ma mère fit redoubler mes larmes. J'observais les petits vaisseaux qui avaient éclaté dans ses yeux et qui lui donnaient un air inquiétant. Puis, mon regard se posa sur sa gorge qu'elle tenta de rapidement masquer d'un pan de son vêtement. Mais pas assez vite. Je vis les hématomes qui commençaient à fleurir sur sa peau pâle et délicate. Des hématomes en forme de doigts. Mes doigts. L'image de mes mains qui enserraient son cou me revint comme une gifle, et mon estomac se souleva. Je rendis violemment le peu qu'il contenait sur le sol de la tente. La paume tendre et chaude de ma mère me frottait le dos, pour m'aider à me libérer de mon malaise. Mais ce ne fit qu'empirer la culpabilité qui m'étouffait. Vivement, je me jetai dans ses bras et mon cœur se brisa quand je sentis son léger mouvement de recul qu'elle essaya bien vite de masquer.
« Je suis désolée, je suis tellement désolée. Je ne sais pas ce qui m'a pris, je ne pouvais pas m'arrêter. Je suis tellement désolée, maman. »«
Allons, ça va aller, ma fille, ça va aller, » dit-elle d'une voix éraillée.
« Et ta gorge ?»
Rien qu'un peu de temps et de repos ne pourra guérir. Calme-toi. Elle resserra son étreinte autour de moi et me berça légèrement, chantonnant des comptines de mon enfance afin d'apaiser la panique qui m'habitait. Nous restèrent longtemps ainsi, serrés si fort l'une contre l'autre que nos silhouettes ne faisaient quasiment plus qu'une. Je ne sais pas à quel moment je me suis endormie, mais l'épuisement, lié à toutes ces émotions, avait dû m'emporter dans le sommeil car je me réveillais sur ma couche et tout était silencieux. Ma mère n'était plus auprès de moi, ce qui m'inquiéta un instant. Puis, des murmures venant de l'espace principal de la tente me rassurèrent, car j'ai reconnu sa voix. La colère que j'y perçus me surprit toutefois, et quand d'autres voix se mêlèrent à la sienne, je compris qu'elle n'était pas seule avec mon père. Silencieusement, je m'approchai de la tenture qui me séparait d'eux. Le ton impérieux d'un des anciens s'éleva au-delà des chuchotements agités. Sendraka, ce qu'il vient de se passer est le signe qu'il est temps. Cela devient trop dangereux.
Silence, elle pourrait t'entendre. Son anniversaire est dans quelques jours. Laissons-la encore profiter un peu de son innocence.
Son innocence? Tu as failli mourir. Tu es notre grande prêtresse. Nous ne pouvons pas nous permettre que ton entêtement puisse te porter préjudice. Le clan a besoin de toi.
Et Dendrata aussi, cracha mon père. Elle n'est pas responsable de ce qui s'est passé. Le seul à blâmer, c'est Draka.
Draka a fait ce qu'il avait à faire pour nous sauver tous. Sans lui, nous serions en train de nous éteindre. C'était un sacrifice nécessaire.
Ce sacrifice, comme tu l'appelles, c'est ma fille, explosa ma mère, oubliant toute prudence. Pas la tienne ou celle de n'importe qui d'autre, la mienne.
Je le sais, grande prêtresse. Le destin a été cruel envers ta lignée, et j'en suis navrée. Mais sois raisonnable. Que se passera-t-il si un nouvel incident se produit et que cette fois quelqu'un d'autre, ou pire, l'ensemble du village en pâtit?
Mais...
Il a raison, maman. »
Sortant de ma cachette, les yeux gonflés par les larmes, je me redressai de toute ma taille et fixa tour à tour chacune des personnes présentes dans la pièce. Comme je le soupçonnais, l'ensemble du conseil était présent, assis autour du feu, faisant front uni face à mes parents. Je serrai le poing, et avant que l'un d'eux ne puisse m'interrompre, je repris la parole.
Je ne sais pas ce qui s'est passé exactement tout à l'heure, mais ce que je sais, c'est que j'ai failli te tuer, aussi facilement que si j'avais voulu déchirer une poupée de chiffon. Toi qui es si forte, tu étais impuissante. Tu luttais de toutes tes forces et je n'ai pas bougé d'un millimètre.
Dena.
Non, maman, arrête. C'est la vérité.
Si je n'avais pas eu une fraction de lucidité, tu ne serais plus parmi nous. Qu'aurions-nous fait alors? Comment aurais-je pu vivre avec ça?
Je déglutis avec difficulté, puis balayai du regard l'assistance. Dans les yeux des membres du conseil, j'y voyais de la peur, de la résignation, mais aussi une détermination farouche, celle de protéger le clan. Dans ceux de mes parents, j'y voyais de l'inquiétude et une douleur immense.
Je ne sais pas ce que vous me cachez. Quelque chose ne va pas chez moi. C'est presque comme si je n'étais pas toute seule dans ma tête, comme si quelqu'un d'autre avait pris le contrôle quand je t'ai attaquée. Je refuse de faire courir ce risque à qui que ce soit d'autre.
Du haut de mes presque 12 ans, jamais je ne m'étais sentie aussi sûre de moi. Bien sûr, j'avais peur, mais rien ne pouvait me faire reculer. Mon père se leva lentement et me prit dans ses bras avant de murmurer à mon oreille.
Je suis tellement désolée, ma fille. J'aurais voulu te protéger du mal de ce monde. Mais nous sommes impuissants.
Je le serrai à mon tour dans mes bras. Je n'étais pas en colère contre lui, ni contre personne d'autre. Je souhaitais simplement comprendre. Jamais mes parents ou mon clan ne me feraient du mal volontairement. Je levai mes yeux étranges vers lui.
Et si vous me disiez la vérité maintenant ?
Le récit de la promesse de Draka fut étonnamment bref. Si bref que c'en était risible vu la gravité de l'acte qu'il avait commis. C'était drôle de constater comme deux ou trois phrases pouvaient faire basculer le destin d'une personne, que ce soit en bien ou en mal. Pas de chance pour moi. Le souhait qu'avait fait mon aïeul des générations auparavant penchait plutôt pour la deuxième option. J'étais maudite. Un sacrifice nécessaire, comme l'avait dit l'un des anciens. Personne exactement ne savait ce qu'il m'arriverait lorsque le moment fatidique se présenterait. Ils avaient décidé de m'enfermer dans la grotte du rituel, en me scellant dans une prison de glace, de façon à me préserver dans un sommeil magique. Seule la lignée des grands prêtres, à l'exception de moi, aurait le pouvoir nécessaire de me libérer. Ils espéraient encore pouvoir me sauver de ce démon. Mais, au fond de moi, émergeait la certitude que ce ne serait pas possible, que ce qu'ils me demanderaient serait bien plus terrible que ce qu'ils ne pourraient jamais envisager. Je ne pus cependant me résoudre à prononcer ce funeste pressentiment à voix haute, de peur qu'il ne devienne réalité. Sous moi, mes jambes se dérobèrent. À présent assise à même le sol, mon regard se perdit dans les flammes. Personne n'osa prononcer un mot. Ma mère me tenait la main, dessinant des cercles rassurants avec son pouce sur ma peau glacée. Que ce soit sa chaleur ou celle du feu, aucune ne semblait m'atteindre. Je frissonnais. Les minutes s'égrenèrent, aussi interminables que les mois de nuit. Puis je m'extirpai à nouveau de mon silence.
Comment allez-vous expliquer aux autres ma disparition ?
Nous avons décidé de leur raconter la vérité, une fois que le démon sera scellé dans la glace, dit ma mère d'un ton hésitant, avant qu'il ne se raffermisse. Je refuse que l'on oublie ton sacrifice. Tous doivent savoir pourquoi tu dois subir ce terrible sort, et ils devront t'honorer pour cela jusqu'à ce que l'on trouve un moyen de te libérer. J'acquiesçais, même si en mon fort intérieur j'aurais préféré que mes amis ignorent tout de mon destin. Qu'ils puissent garder de moi l'image de Dena, leur amie, et non celle d'une offrande. Cependant, la résolution dans le regard de ma mère m'indiquait que c'était un combat dans lequel je ne souhaitais pas me lancer. Alors je me résignai. Un soupir m'échappa.
J'aimerais dire au revoir à mes amis. Est-ce que je peux ?
L'un des anciens s'approcha à son tour et posa une main sur mon épaule, le regard rempli de compassion.
Je suis désolée, mais ce ne sera pas possible. Nous ne pouvons pas prendre le risque qu'ils essayent d'interférer avec la cérémonie. Si ça se passe mal, tu pourrais les blesser.
Mon cœur déjà en miettes se transforma en cendres.
il n'en restait plus rien. Cependant, les arguments de l'ancien faisaient sens. Je ne pouvais pas leur permettre de prendre ce risque. D'un signe de tête, je lui indiquai que je comprenais, puis m'excusa, prétendant que la fatigue me gagnait. À peine avais-je regagné ma couche que les murmures reprirent. Mes rêves d'exploration et d'aventure me semblaient si loin désormais. Je n'avais même pas vécu que j'étais déjà condamnée à mourir. C'était tellement injuste. De nouveau, mes yeux s'emplirent de larmes, mais cette fois je refusais de les laisser couler. Je pensais à mes amis, Cinda et ses jolies fossettes qui creusaient son sourire, Cessna et Salgrand et leurs interminables chamailleries, Corgan et sa besace débordante d'herbe laissant dans son sillage ce parfum si caractéristique, et Octas, toujours à mes côtés, envers et contre tout. Son visage flotta un instant dans mon esprit. Peut-être que si j'avais été un jour amenée à devenir grande prêtresse, il serait réellement devenu mon garde. Peut-être même qu'il serait celui avec qui j'aurais fini par m'unir pour perpétuer la lignée de ma famille. Mais désormais, tous ces rêves d'avenir me semblèrent bien dérisoires, inaccessibles. Ma vie s'arrêterait dans quelques jours. Tel était mon destin. Roulée en boule, je luttais pour trouver le sommeil. Si seulement je n'avais pas aussi peur de faire des cauchemars, m'endormir aurait pu m'apporter un répit appréciable. Alors que les murmures s'étaient éteints depuis bien longtemps et que la nuit déjà devait être bien avancée, je me relevai avec lassitude et me dirigea à l'opposé de la grande tente, là où se trouvait l'espace dédié à mes parents. Après une hésitation, je repoussai la tenture qui fit un léger bruit de frottement. La voix de mon père résonna alors. « Dena, tout va bien ?»«
Je n'arrive pas à dormir, je ne voulais pas te réveiller, désolée. »
Je vis sa silhouette remuer dans la pénombre alors qu'il s'asseyait.
« Est-ce que je peux... »
m'interrompis-je gêné par la demande qui me brûlait les lèvres. « Évidemment, viens. » Je n'avais pas dormi avec mes parents depuis des années. J'étais bien trop grande pour cela, ma fierté m'en empêchait. Mais à ce moment précis, cela n'avait plus aucune importance. Bientôt, très bientôt, je ne pourrais plus voir le visage usé par le grand air de mon père, ni sentir la chaleur de ma mère. Alors qu'importe la fierté. Je me nichai sous les peaux et les bras de mes parents m'enveloppèrent dans un cocon rassurant. Aucun cauchemar ne pourrait m'atteindre ici. Cette certitude ancrée dans mon cœur, je tentais de graver dans ma mémoire tous les souvenirs de ces moments de joie que j'avais eu la chance de vivre dans ma courte vie. La première fois que j'avais chevauché dans les steppes gelées aux côtés de mon père et d'un groupe de chasseurs. La première cérémonie du dragon d'argent aux côtés de ma mère. Celle où j'avais eu le droit d'ouvrir le coffret contenant l'emblème de notre clan. La première aventure en cachette aux côtés d'Octas. Ce souvenir m'arracha même un sourire. On avait tellement mangé de baies sauvages ce jour-là qu'on en avait été malade toute la nuit. Ces images rassurantes en tête, je me laissais enfin emporter par le sommeil, adressant une dernière prière au dragon d'argent. Grand dragon d'argent, toi dont la magie coule dans nos veines, je t'en prie, viens-moi en aide. Tu es le seul à pouvoir le faire. Et voilà, c'est terminé pour ce soir. J'espère que vous avez aimé cet épisode autant que j'ai pris plaisir à l'écrire. Même si pour notre pauvre Dena, les prochains jours s'annoncent des plus compliqués. Je vous rappelle que, comme annoncé sur les réseaux, le rythme de LNS change et qu'il y aura désormais un épisode toutes les deux semaines. On se retrouve donc vendredi 22 mars à 23h pour la suite d'Entre Feu et Glace. Et comme toujours, vous pouvez retrouver l'actualité du podcast sur Instagram, Spotify, Google Podcast et bien d'autres. Les détails sont dans la description de l'épisode. En attendant que l'on se retrouve, je vous souhaite une bonne nuit. Et à très bientôt sur Late Night Stories.